un podcast France Culture.
Le revers de la médaille, c'est une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Somaya Dabesh et proposée par Les Pieds sur Terre. Tout de suite, cinquième et dernier épisode, les athlètes sont des personnes racisées comme les autres.
Au départ, je crois que Marie-Josée, non, il n'a pas été sifflé. Marie-Josée Pérez qui est bien parti avec une Menotté également super moment en fréquence. Allez Marie-Josée, il faut venir sur la ligne. J'ai l'impression qu'elle est près de la ligne, à la dernière ligne droite avec Marie-Josée qui est en retard sur Menotté. Marie-Josée qui est en train de faire son effort maintenant. Marie-Josée qui est en train de passer. Marie-Josée qui va devenir championne de l'Afrique de 200.
Le 5 août 1992, Marie-Josée Pérec arrive en tête du 400 mètres dames aux Jeux Olympiques de Barcelone.
Marie-Josée Pérec vient de réussir l'impossible.
Cette course et les nombreuses médailles d'or qu'elle a gagnées font d'elle une légende de l'athlétisme français, une icône. Dans les journaux, on l'appelle la gazelle, la divine, la perle noire.
Des jambes qui n'en finissent plus. Des jambes qui font de Marie-Josée Pérec une perle noire, une perle rare pour l'athlétisme français.
Je me suis amusée à compter le nombre de sportives et sportifs de couleur qu'on a appelées perles noires depuis le début du XXe siècle. Outre les plus célèbres, comme Larbi Ben Barek ou Jesse Owens, j'en ai trouvé énormément. En fait, la liste est si longue qu'on pourrait se faire un collier trois rangs avec toutes les perles noires du sport occidental.
Des grands champions ont mis l'athlétisme en vedette aux Antilles.
Il y a encore peu de temps, on qualifiait Marie-Josée Pérec de paresseuse.
L'Antillais est fière et aime bien relever le défi.
Marie-Josée Pérec affirme qu'elle n'a pas été confrontée au racisme dans les stades. J'ai voulu savoir s'il en avait toujours été ainsi, car bien avant elle, les Antilles ont fourni de nombreuses athlètes à la France. Ghislaine Barnet, par exemple.
J'ai fait du saut en hauteur de 1962 à 1972.
Une discipline révolutionnée par Richard Fosbury et le fameux saut qui porte son nom.
Je sautais en ciseaux et deux ans après, je me suis initiée au rouleau ventral parce que ça permettait de sauter plus haut. Et j'ai terminé donc ma carrière en sautant en ciseaux, alors que le Fosbury Flop était apparu en 1968 avec Fosbury, Richard Dick Fosbury. Je l'ai vu à Mexico, puisque j'ai participé aux Jeux Olympiques de Mexico. On a entendu parler d'un sauteur qui tournait le dos à la barre. Personne n'avait su comment il sautait Fosbury, parce qu'on n'avait pas d'image, ou je pense qu'il ne voulait pas donner d'image non plus. Et ça a été extraordinaire de voir ce gars courir, tourner son dos à la barre et sauter. Et en plus, il a été champion olympique. Donc tout le monde a découvert son saut à Mexico. Et maintenant, vous voyez, tout le monde saute en Fosbury. Quand j'ai été sélectionné et qu'on est arrivé à Mexico, c'était extraordinaire parce que j'ai cru retrouver la Martinique. Il y avait les mêmes conditions climatiques, il y avait les mêmes fruits, donc j'étais heureuse.
Et comment c'était pour une athlète antillaise la vie en France à la fin des années 60?
Quand je suis restée en France, c'était en 67. 67, ben, on était dans une chambre, nous étions quatre, hein, dans une chambre. Je travaillais, donc j'avais mon poste au lycée Marie Curie de Sceaux et je m'entraînais. Nous, les Antillais, on arrivait pour préparer une compétition civile et on restait entre nous, avec qui on irait. On était dans les mêmes chambres, on allait déjeuner en même temps, on s'arrangeait, on ne s'entraînait pas en même temps parce que ce n'était pas les mêmes disciplines, mais on s'arrangeait pour se retrouver et être à table ensemble, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et les métropolitains restent entre eux et les Antillais restent entre eux. Hein. Une fois, j'étais sélectionné pour faire match international France-Finlande. Et les journalistes de la télé finlandaise ont demandé à ce que une fille qui était rouquine et moi, qu'on vienne à la télé. C'était pour montrer certainement la diversité de l'équipe de France. Et alors, la responsable des équipes de France dit... au responsable de la télé, Claudie Cuvelier, oui, mais pas Barnet parce qu'elle n'est pas française. J'ai dit, pardon, je ne suis pas française et je suis en équipe de France. Je sais que les journalistes aimaient utiliser, par exemple, la gazelle noire. Moi, ça n'a jamais fait ni chaud ni froid, hein, la gazelle noire. Bon, c'était comme ça. Je ne courais pas, je faisais du saut en hauteur. Et la gazelle noire, avant moi, c'était Wilma Rudolph, qui courait merveilleusement bien. Donc, je ne sais pas. Je suis noire, certes, mais bon.
Il n'y avait pas la Carmen noire?
Ah oui, c'était Christian Montaignac. Pourquoi la Carmen noire? Je ne vois pas pourquoi il avait utilisé cette expression, mais bon.
Le sprint français, à l'heure actuelle le meilleur d'Europe, venait de découvrir un peu par hasard celui qui, dans quelques temps, serait peut-être le meilleur de tous, Roger Bambuc, 19 ans, Guadeloupéen.
Votre compagnon, c'était l'athlète Roger Bambuc.
Oui.
Et lui aussi, on lui donnait des surnoms, non?
Non, lui, il trouvait qu'il était nonchalant.
Tout le monde aime bien ce jeune noir qui possède la nonchalance des gens de sa race.
Parce que quand se levait pour s'échauffer et tout, il prenait son temps. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il disait ça. Bon, l'Antillais nonchalant, l'Antillais fainéant, l'Antillais... Bon.
Il faut se souvenir qu'à l'époque où Ghislaine Barnet se fait appeler la gazelle noire, les lois de ségrégation raciale sévissent encore aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour protester contre cette ségrégation que les champions de sprint Tommy Smith et John Carlos lèvent leurs poings gantés de noir lors de la remise de leur médaille au JO de Mexico. Le Comité international olympique les bannit immédiatement des Jeux.
Vous comprendrez aisément que ce genre de manifestations qui ne sont pas du tout compatibles avec l'idéal olympique.
Quand il y a eu l'hymne des États-Unis, ils ont levé le poing et ils ont baissé la tête. Et naturellement, vous pensez bien que les dirigeants américains étaient très en colère. Et le directeur du CIO de l'époque, c'était Avery Brundage. Lui non plus, il n'a pas apprécié et ils ont exclu ces deux athlètes du village olympique et ils les ont envoyés illico presto aux États-Unis. Et je me souviens que, je ne sais plus quel journaliste nous avait posé la question, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, ils ont bien raison, parce qu'un homme, c'est un homme, il n'y a pas un sportif d'un côté et l'homme de l'autre, et ils ont eu raison de manifester.
Vous aviez entendu parler de la ségrégation aux États-Unis avant cet épisode?
Plus ou moins. On savait qu'il y avait certains Noirs qui n'étaient pas appréciés, mais moi, je ne pensais pas que les sportifs, ces Américains, à l'époque, ils ne supportaient pas trop les Africains. Hein, et c'est après qu'ils ils ont fait des recherches et ils ont vu que certains étaient d'origine africaine. Puisqu'avec l'esclavage, on les avait emmenés aux États-Unis.
Mais vous aussi, en quelque sorte, vous êtes descendante d'esclaves?
Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, à l'époque, on ne parlait pas de ça. Hein. Mes parents n'ont jamais parlé d'esclavage. Personne ne parlait d'esclavage. C'est au fur et à mesure que les gens se sont intéressés à ça. Et maintenant, ils font des manifestations et tout. Mais à mon époque, personne ne manifestait de quoi que ce soit. Hein. J'ai jamais entendu parler d'esclavage chez moi non plus. Hein. On a été... C'est vrai qu'il y a eu l'esclavage chez nous, mais on a... Bon. Dans ma famille, j'avais une arrière-arrière-grand-mère qui a été esclave. Et j'ai découvert ça parce que mon frère aîné a fait la généalogie de la famille. Je me souviens qu'on nous disait qu'on avait des antécédents indiens. Parce que quand les Antillais ont refusé d'être esclaves, ce sont des Indiens. Ils ont fait venir des Indiens à la Martinique. Et je me souviens qu'on pensait plus qu'on était des descendants d'Indiens.
Ghislaine Barnet nous parle d'un temps où l'esclavage n'est pas considéré comme un crime contre l'humanité et où personne encore n'a songé à en demander réparation. Difficile dans ces conditions, et encore plus pour une athlète d'envergure nationale, de se formuler la discrimination raciale. Emma Sulter, martiniquaise elle aussi, est arrivée en métropole dans les années 70. Championne de sprint, elle a été sélectionnée aux Jeux Olympiques de Montréal en 1972.
Alors, ma discipline, c'était le 100 mètres, le sprint en fait, 100, 200 et 4 fois 100 mètres. J'allais au championnat de France régulièrement jusqu'aux Jeux Olympiques de Montréal. J'avais fait les minima olympiques chez moi à la Martinique. Et c'est à partir de ce moment-là que la Fédération française d'athlétisme m'a demandé de rejoindre la métropole. Et je suis arrivée à Paris, mais à l'INSEP. L'INSEP, c'était là où se diversaient tous les athlètes des Antilles, de la Réunion, de Tahiti. Nous étions tous là. Quand on est antillais en France, à Paris, quand on y arrive, ben on est esselé. On est loin de notre famille, il fait froid et il faut s'adapter. Il faut s'adapter à tout prix. Je n'avais pas d'entraîneur, j'étais livrée à moi toute seule. On me demandait de refaire des performances que j'avais déjà faites régulièrement à la Martinique. Ce qu'il était dit lorsqu'on faisait des performances aux Antilles, que nous avions des chronos en bois, d'accord ? Et donc, quand on arrivait en France, il fallait absolument, il fallait refaire et refaire. Vous savez qu'après un certain moment, on est fatigué. Les Antillais n'étaient pas pris au sérieux. Et c'est ça qui est embêtant. On nous appelait les sportifs cocotiers. Et ce genre de réflexion, je pense que c'était un petit peu déplacé de la part de certains athlètes ou même de dirigeants. J'étais l'une des meilleures athlètes françaises. Et donc, après avoir fait pas mal de compétitions en Europe, il y avait les championnats de France. Et puis, ne voilà-t-il pas qu'en demi-finale, je sens une contracture au niveau de la jambe droite. Donc, je vais quand même voir Monsieur Dubreuil. Et je lui dis, vous savez, Monsieur Dubreuil, vous voyez, j'ai fait plusieurs fois les minima. Je sens une douleur au niveau de la cuisse droite. Est-ce qu'il me permet de ne pas faire cette finale? Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qui me dit que si je ne faisais pas la finale du 100 mètres, je n'irais pas à Montréal. Quand on nous appelle à la chambre d'appel, j'étais tellement mal, vous êtes seule avec vous-même, et je me dis, bon, ben, je n'irai pas courir plus d'un seul coup. Je me suis dit, bon, Emma, écoute, tu n'es pas vraiment blessée, tu y vas. On va voir ce que tu vas faire. Je rentre donc la dernière sur la piste, et pour me donner beaucoup plus de chance, pour ne pas pousser trop sur cette jambe droite, je change ma jambe d'appel. Et je fais troisième. Donc encore qualifié, puisque c'était les trois premiers qui étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques. Mais je reçois une convocation de la Fédération Française d'Athlétisme qui me met en barrage avec les deux personnes qui étaient derrière, qui étaient deux filles du Racing Club de France, que je ne nommerai pas, parce qu'elles étaient les chouchous de M. Dubreuil et de M. Després, qui était l'entraîneur national.
Un barrage est une course destinée à sélectionner les athlètes qui iront à une compétition. Emma, ayant déjà fait les minima exigés, n'aurait pas dû être soumise à une telle course. Mais elle obéit. Elle arrive première et elle est enfin autorisée à faire partie de l'équipe de France d'athlétisme envoyée à Montréal.
J'arrive à Montréal et personne ne s'occupe de moi. Monsieur Després ne s'occupe pas de moi, il s'occupe de ses deux athlètes. Donc, je suis pratiquement délaissée.
Alors qu'Emma fait partie de l'équipe de France, elle n'a pas d'entraîneur attitré, ne partage pas les repas avec les autres athlètes et n'est pas invitée non plus aux réunions d'information. Pourtant, elle continue à s'entraîner dans son coin, portée par la perspective qu'elle va courir le 100 mètres.
Donc, un jour, j'allais déjeuner et c'est à ce moment que j'apprends que je ne ferai pas le 100 mètres. Alors que j'étais la première à avoir fait ces minima depuis la Martinique et je les ai refaites plusieurs fois. Donc j'ai essayé de revoir ces deux personnes, Monsieur Dubreuil et bien sûr l'entraîneur national, pour comprendre la raison. Jusqu'à maintenant, je peux vous dire que je n'ai jamais su la raison pour laquelle je n'ai pas fait le 100 mètres sur eux. Pourquoi cette préférence alors que nous avons de meilleures performances ? J'ai refait les mini-matchs, j'ai couru, j'ai fait plein de choses pour qu'à Montréal, je sois mise de côté comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Aucune explication. Mais je vous dirai plus. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui écrivait un livre sur les Jeux Olympiques. Ce monsieur voulait être sûr que j'avais fait les Jeux Olympiques de Montréal. On ne me retrouve pas sur les tablettes de la Fédération Française d'Athlétisme. Une deuxième chose, vous savez, je suis à la retraite sur l'état de tout ce que j'avais fait. Il manquait des trimestres. Et lorsque j'ai regardé, c'était 75, 76, c'est-à-dire pré-olympique et olympique. La Fédération Française m'a laissé de côté. Donc je crois que c'était du racisme. C'était du racisme, on le sentait. C'est très difficile en tant que sportif de le dire. Je pense que on le sent, on n'a pas besoin de voir. Et je pense que d'autres athlètes ont dû ressentir les mêmes choses que moi, d'autres athlètes antillais. L'image de l'antillais, il faut remonter à notre histoire, hein, du colonialisme. On était quelquefois inférieurs, hein, vous savez bien. Ah là là, c'est difficile à en parler, mais c'était très hypocrite, c'était sournois. On ne savait pas où se mettre, on ne savait pas. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que je me batte pour pouvoir prouver que j'existais pour mon pays, la Martinique, la Guadeloupe, et voilà quoi.
Ne savait pas où se mettre. Je crois que je n'ai jamais entendu de définition aussi précise de ce que l'on éprouve quand on est victime de discrimination sans comprendre que c'est du racisme. Et pour les athlètes, cette discrimination est d'autant plus difficile à identifier qu'elle est souvent positive. Car soyons clairs, le préjugé racial le plus largement répandu dans le sport est que les Noirs courent plus vite que les Blancs. On trouve d'ailleurs toute une littérature pseudo-scientifique qui essaye d'expliquer par la taille des mollets, un soi-disant gène du sprint ou bien la hauteur du nombril, la présence massive d'athlètes de couleur dans les stades. En réalité, il y a une foule de raisons qui peuvent expliquer pourquoi un groupe social est mieux représenté dans un sport. L'éducation des individus, leur alimentation, leur entraînement, leur situation économique et culturelle. Toutes ces raisons sont bien évidemment écartées par les amateurs de génétique. Et on notera d'ailleurs que jamais personne n'a pensé à mesurer les mollets des joueurs de hockey sur glace pour comprendre pourquoi ils étaient majoritairement blancs. Quoi qu'il en soit, quelle que soit sa couleur de peau, la première des qualités de l'athlète, c'est sa capacité à s'entraîner dur. Ce qui est le cas de Frédéric et de Yona, les deux athlètes que j'accompagne dans leur qualification pour Paris 2024 et pour lesquels l'heure du bilan est arrivée. Nous sommes le 17 février. Fred, le lanceur de poids, a enfin disputé le championnat de France qu'il préparait depuis 4 mois, tout en travaillant de nuit et en s'occupant de sa fille Maë qui a moins d'un an.
On a eu 4 bronchiolites d'affilée. Oui, surtout une où on a eu quelques jours, quelques nuits blanches à l'hôpital parce qu'elle était quand même assez pas mal dégradée. Donc bon, c'est très très épuisant au-delà du physique.
Son objectif, quand je l'avais rencontré, était d'améliorer son record pour se qualifier aux Jeux de Paris et de retrouver son titre de champion de France. Il me raconte son championnat au téléphone.
Là, tu étais au championnat de France, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'était les championnats de France. Bah, donc, c'était samedi soir. Ouais, c'est ça, mon cœur, samedi soir. Hein.
C'est quoi ?
Les championnats de France. Samedi à 17h, quelque chose, ouais. Je fais 19,90 m au premier essai. Parce que, bon, bah, pareil, je savais que j'avais pas beaucoup d'énergie. Donc, j'ai envoyé à 100% dès le premier essai pour être sûr d'assurer entre et la gagne et un peu de les tuer psychologiquement. Ce qui a un petit peu fonctionné aussi. puis retrouver le titre de champion de France, c'est très agréable, quoi. Ça fait du bien. Cependant, c'est pas sorti parce que je sens que j'ai pas réussi à être reposé pour exploiter au mieux le truc, quoi, tout simplement. Entre la première compétition et les championnats de France, où normalement on a à peu près un mètre d'écart, bah, y a eu 6 cm de mieux. Mais malgré tout, on a quand même fait, avec le contexte qui n'était pas facile, une performance qui est internationale et qui est solide, quoi. Donc il faut le voir comme ça. Ça encourage pour la suite, pour la saison extérieure.
Ça te fait rire, toi ?
Ah ouais ? Oh là là ! Ok, d'accord.
Coucou Adila, j'espère que tu vas bien.
Yona, la lanceuse de javelot qui était partie s'entraîner en Nouvelle-Calédonie pour avoir accès au grand championnat dans le Pacifique, a elle aussi disputé sa première compétition de la saison. Elle a pu, grâce à son entraîneur, participer à un meeting en Australie.
À la base, ils avaient annoncé un bon vent de dos avec des rafales à 100 km/h. Je voyais déjà mon javelot planer beaucoup plus loin que ce que je suis capable de faire, poussé par le vent. Et en fait, on est arrivé à la compétition et pile au moment de l'échauffement, grosse averse. De la pluie, je pataugeais dans la mare. Et après avoir vidé toute mon énergie sur le premier essai, il y a eu une petite accalmie, mais j'avais plus d'énergie, je pouvais plus rien mettre dedans. Donc, les éléments contre nous cette fois-ci.
Malheureusement pour Yona, non seulement elle n'a pas fait les performances qu'elle attendait, mais en plus, elle a eu droit à une très mauvaise surprise à son retour à Nouméa.
Tu vois, ça faisait un mois que j'étais partie de Nouvelle-Calédonie et je suis rentrée chez moi. Tout avait moisi. C'était affreux, il y avait des cafards partout. Tu vois, la loi de Murphy, elle m'a touchée là. C'est la loi des chaînes, je les enchaîne, c'est pas possible. Sur le coup, j'étais vraiment déçue et pour moi, c'était vraiment des défaites. Je sais que j'y pouvais rien, mais j'arrive pas à mettre ça sur le dos des conditions. Pour moi, c'est moi qui ai perdu, c'est pas les conditions qui ont fait que j'ai perdu.
Je comprends que depuis que j'ai rencontré Frédéric et Yona, leurs chances d'être aux Jeux de Paris se sont considérablement réduites. Frédéric n'a pas réussi à faire la performance qu'il visait. Yona ne parvient pas à monter dans les classements internationaux. Malheureusement, c'est à cette étape que je dois les quitter. Mais pour l'un comme pour l'autre, tant que la saison d'athlétisme ne sera pas finie, c'est-à-dire en juin 2024, rien n'est perdu. Et Frédéric et Yona sont aussi des champions de l'espérance.
Peut-être que c'est un mal pour un bien. De toute façon, depuis le début, je suis dans un truc à long terme. Je sais que là, ce que je vis cette année, c'est la qualification et la finale à Paris. Mais que pour aller chercher une médaille, il va me falloir plus de temps. Et ce que je vise, c'est une médaille en 2028. Et je sais que ça va prendre du temps, mais j'ai pas le choix. Et pour le moment, tout ce que je fais, c'est j'apprends. Je prends. Et je suis sûre que même en 2028, après des années d'entraînement à haut niveau, j'apprendrai encore. Mais de toute façon, que ce soit dans le sport ou dans la vie, celui qui arrête d'apprendre, il arrête d'avancer. Hein. Et pile au moment où tu crois que tu as tout compris, eh ben, tu te prends une baffe. La vie te met une baffe et te dit non, tu n'as pas tout compris, tu dois encore continuer à évoluer. Parce que le monde est changeant, donc ton positionnement face au monde doit lui aussi être changeant.
C'était le revers de la médaille, épisode 5. Les athlètes sont des personnes racisées comme les autres. Une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Somaya Dabesh et proposée par Les Pieds sur Terre avec cet épisode mixé par Ludovic Augier. La musique, c'est Gilles Lavanant. D'autres musiques ont été proposées par Antoine Vuilloz. L'attaché de production, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi. Merci pour l'ensemble de cette série. à Nesrine Alaoui, à Renaud Longuèvre et à Nathalie Yaneta. D'autres informations de référence et de remerciements épisode par épisode, c'est à la page Le Revers de la Médaille sur le site de France Culture, bien évidemment.